1 sur 5, et c'est insupportable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir, l'émission matinale des antennes de Principe Actif et de la radio HDR. Ce matin, à nos micros, en plus d'avoir notre ami So qui nous a rejoint.
Salut.
Salut So. En plus d'avoir l'ami Pauline qui est avec nous. Bonjour Pauline.
Bonjour à tous.
Eh bien, nous aurons Benjamin Perrault de l'association Silence à l'écoute. Bonjour Benjamin.
Salut tout le monde.
On aura l'occasion d'échanger, de discuter avec toi Benjamin, bien entendu. On y ajoutera un peu de musique, un peu de bonne humeur, un peu de bon son, du répondeur, enfin voilà, tout ce qui fait la recette du pire reste à venir. Alors non, c'est pas ça la recette du pire reste à venir. C'est ça la recette du pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et puis voilà, je dois avoir les doigts qui collent ou que sais-je. En tout cas, on va essayer de soigner ça jusqu'au bout. Je le disais, nous sommes avec Benjamin Perrault, président de l'association Silence à l'écoute. Quand j'évoquais le 1 sur 5 en ouverture de cette émission, c'est le triste chiffre de un enfant sur 5 vivra dans son enfance, avant sa majorité, des violences sexuelles. Et ça, comme je le disais, c'est insupportable. C'en est même inquiétant, c'est un chiffre sur lequel le grand public n'est pas forcément toujours au fait. Ça fait partie des tabous de société. Et à Silence à l'écoute, justement, on lève ce tabou, on libère la parole. Bonjour Benjamin. En quelques mots, qu'est-ce que cette association Silence à l'écoute ?
Eh bien, c'est une association hébroïcienne que j'ai fondée avec mon jeune frère il y a un peu plus de 3 ans maintenant, fin 2021. Et cette association vise à lutter tout simplement contre les violences sexuelles faites aux enfants. On s'est fixé pour mission principale de contribuer à libérer bien sûr la parole des victimes de violences sexuelles, donc des enfants qui subissent ça ou des adultes qui ont subi ça lorsqu'ils étaient enfants.
Oui, des fois il y a du temps qui est passé entre finalement ces actes d'agression et puis le moment où la parole peut sortir.
Oui, c'est ça, exactement. Et finalement libérer ce qu'on fait ce matin, libérer la parole de tous autour de ce sujet-ci, parce qu'on est intimement persuadé au sein de Silence à l'écoute que plus on en parlera facilement, plus librement les uns et les autres, plus on contribuera ensemble à endiguer ce fléau que constituent les violences sexuelles faites aux enfants. Tu parlais de 1 sur 5, la stat elle est dramatique, elle a été établie par le Conseil de l'Europe il y a quelques années, et quand je suis tombé là-dessus, j'ai été effaré, quoi.
Il y a plein de chiffres. On en parlera durant cette émission, des chiffres qui sont. Moi, ça m'a glacé le sang quand je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, je te recevais à nos micros, je découvrais tous ces chiffres dont j'avais aucune connaissance. Ça m'avait glacé le sang et en même temps, je me disais. On intervient régulièrement auprès des publics jeunes, adolescents, enfants. On est plutôt dans nos métiers attentifs à ces questions de maltraitance de manière plus large. Et malgré ça, finalement, il reste quand même chez nous, un tabou autour de l'agression sexuelle des enfants, quoi.
Eh oui. La délicatesse de la thématique qui touche à l'intime, elle est dure et c'est parfois plus facile, moins coûteux pour chacun de ne pas voir, de rester dans le déni. Alors que finalement, quand on en parle, tel qu'on le fait ce matin, bah, il y a quelque chose qui soulage les uns et les autres et ça permet de vraiment avancer, quoi, sur les traumatismes des personnes qui ont pu subir ça, quoi.
À chaque fois que je t'ai mis dans une préparation d'émission, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas le sujet le plus gai du monde. Mais en fait, c'est tellement nécessaire. On en parlait quand on s'est contacté en amont. Je disais, je sais pas pourquoi je prends ce genre de sujet qui vont me plomber une matinale, mais finalement, c'est tellement essentiel.
Ouais. Et puis, rappelle-toi, il y a 2 ans, quand on avait parlé à l'issue de leur passé ensemble, bah, finalement, ça fait du bien. Ça fait du bien à chacun. C'est un peu dur au moment où on s'y met, mais après, il en ressort toujours quelque chose de positif. De se dire, ouais, on a traité le sujet, on l'a bien traité, et puis ça permet à certaines personnes de s'en libérer. À l'issue, j'avais eu quelques coups de fil et des personnes qui s'étaient rapprochées de l'association.
Eh ben, c'est ça sert à ça, libérer la parole. On y reviendra. Pourquoi, comment, quelles sont les méthodes et quelles sont les actions de silence à l'écoute, plus précisément durant cette matinale, bien entendu. Merci Benjamin d'avoir répondu à cette invitation. C'est un vrai plaisir de t'avoir à nos micros. On va ouvrir l'émission avec un peu de douceur avec l'artiste Daniel Ponder, et j'ai oublié mes lunettes, hein, j'en suis désolé, il va se passer plein de petits moments comme ça dans l'émission, j'ai pas de lunettes, avec Daniel Ponder, un peu de douceur.
Salut le matinal.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, la like est mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour, bonjour la matinale. Les Golden Romeo et le groupe Tiar seront samedi 8 février à 19h30 à la Brasserie Sport à Gravigny. Qu'on se le dise, on vous attend.
Eh ben, ça nous a été dit. Merci pour cette petite info. Emparez-vous du répondeur téléphonique de la radio au 02 32 62 57 32. Vous pouvez nous laisser des infos comme on vient d'écouter. Vous pouvez nous donner de vos nouvelles. Vous pouvez contester. Vous pouvez nous donner vos astuces, vos bons plans, nous conseiller un morceau de musique ou que sais-je, nous laisser un peu de poésie sur le répondeur. Moi, j'aime bien quand il y a de la poésie sur le répondeur. Moi, ça me fait plaisir, ça. Un peu de poésie le matin, ça fait jamais de mal. En tout cas, nous sommes toujours avec Benjamin Perrault de l'association Silence à l'écoute, association d'accompagnement et de libération de parole des victimes d'agressions sexuelles infantiles, c'est comme ça qu'on peut dire. Hein. La parole, elle se libère soit quand on est enfant, soit quand on est plus grand. Moi, je voulais revenir un petit peu, Benjamin, sur la genèse de cette association. Comment, au bout d'un moment, Benjamin, accompagné de d'autres personnes, bien entendu, vous dites, eh bien, il y a un manque, il y a une parole qui doit se libérer, il y a quelque chose qui doit être mis en œuvre. Comment ça démarre, en fait, tout ça, Benjamin ?
Oui, la logique, elle est simple, elle est souvent en commune à pas mal de personnes qui se lancent sur ce sujet-ci. Moi, comme beaucoup de gamins, j'ai fait pas mal de sport dans mon enfance. J'ai grandi à Conches et malheureusement, j'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance. Je pratiquais le tir à l'arc. J'avais un entraîneur que j'idolâtrais, que j'aimais particulièrement, et malheureusement, il a usé de cette relation-là pour commettre des agressions et des viols me concernant mon frère. Et comme bon nombre de victimes, on a mis des années avant d'en parler. J'ai mis une douzaine d'années avant d'en parler. Je dirais qu'on a éprouvé notre parcours de soins, notre parcours aussi judiciaire, puisqu'on a eu la chance qu'il soit condamné à 15 ans de prison, ce monsieur. Et c'est à l'issue de ce procès qu'on a décidé de créer Silence à l'écoute. On s'est dit, tiens, on est à l'aise pour en parler. On a expérimenté notre parcours de soins, faisons-en quelque chose. Et maintenant, sensibilisons, formons et accompagnons ceux qui ont vécu ça.
Dans ces situations d'agression sexuelle, tu l'évoquais là, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire que le monstre ne ressemble pas à un monstre, forcément.
Et oui.
Et ça, c'est important comme notion.
Et oui, il ne l'est pas. En tout cas, dans ce qu'il donne à montrer, à voir aux autres, aux adultes, aux enfants, il avait aussi de très, très grandes qualités. C'était un champion, lui. En l'espace d'un an, il est devenu multimédaillé au championnat de France, vice-champion du monde l'année d'après. Comme je disais, on l'idolâtrait, on voulait tous devenir des petits champions, champions qu'on est devenus. Mais malheureusement, il a agi de manière mal intentionnée, et il a usé de cela pour nous agresser et nous violer.
Tu évoques cette notion de parole qui se libère au bout de 12 ans, ce qui est très long en fait, enfin, on pourrait dire, mais c'est très long en fait, 12 ans pour libérer une parole. Malheureusement, c'est souvent le cas, les paroles sortent régulièrement, très tardivement. Je fais le parallèle également avec des histoires juridiques dont on a entendu parler. Je suis obligé de penser à l'abbé Pierre sur des agressions sexuelles, où finalement des paroles sortent plus de 20 ans.
Et oui.
Le temps de la prescription, hein. Plus de 20 ans sur la parole se libère très très tardivement. C'est commun ça finalement que cette parole soit enfouie trop longtemps.
Et oui, la moyenne elle est de 20 ans. Alors ça reste une moyenne, hein, mais ça signifie que certaines personnes sont en capacité d'en parler au bout de quelques années, et puis d'autres bien au-delà de 20 ans pour constituer cette moyenne à un moment donné. C'est courant, c'est fréquent. De nombreux facteurs entrent en compte là-dedans, mais la honte, la culpabilité que ressent une victime autour de ce traumatisme-là vient naturellement verrouiller sa parole pendant des années. Et Ouais, c'est ce qui rend la chose compliquée. C'est cette mission qu'on s'est fixée justement de contribuer à libérer cette parole plus rapidement au sein de Silence à l'écoute. C'est ce qu'on fait au quotidien.
Peut-être même en banalisant le sujet de discussion, comme on le fait ce matin, ouais, comme ça. On le fait à travers toute discussion, parce que quand on ajoute cet élément de 20 années en moyenne pour libérer la parole, et finalement qu'un enfant sur cinq dans son enfance aura vécu des agressions sexuelles, on se dit que finalement cette parole, on peut la faciliter de manière générale en grand public à travers à travers des discussions, à travers laisser la porte entrouverte à la parole.
Ouais, c'est ça, en parler un peu plus librement comme on le fait ce matin, hein, c'est juste. Hein. Je crois qu'il faut vraiment multiplier tous ces espaces de parole là justement pour faire en sorte que ça se libère plus rapidement.
Et puis tu évoquais pourquoi la parole n'est pas libérée pour des questions de honte, de culpabilité. Finalement, la honte et la culpabilité devraient être du côté de l'agresseur et en aucun cas du côté de la victime quand même. Et malgré tout, c'est quand même ce qui va en fait enfouir la parole.
Et oui, il y a quelque chose de spécifique à cette la violence sexuelle faite aux enfants, systématiquement. Eh bien, malheureusement, c'est la victime qui ressent cette culpabilité, qui ressent cette honte, et c'est dans très peu de cas l'auteur qui la ressent. Les proches aussi, hein, de la victime, dès lors que la parole de la victime est libérée, ses proches ressentent cette même culpabilité, cette même honte, ce qui rend les choses pas faciles, mais tellement libératrices quand on le fait. Ça soulage. Souvent, on entend les victimes qu'on peut accompagner et qu'on accompagne de manière régulière nous disent « Ah, je me sens libéré d'un poids. Ça fait du bien. »
Bah, grandir avec ce poids doit être assez particulier, doit être très particulier en fait, de d'avoir ce sac à dos rempli à trimballer pour grandir, pour évoluer, appréhender le monde après avoir traversé ce type de traumatisme. Ça va être plus difficile forcément d'affronter le monde derrière tout ça.
Et oui, on cherche à l'enfouir hein, au maximum, et chacun use des moyens qu'il a à sa disposition. Souvent, lorsqu'on échange plus précisément sur la thématique avec des experts, on se rend compte que bon nombre de dysfonctionnements d'enfants, d'ados, lorsqu'on s'aperçoit qu'ils tombent dans des troubles anxio-dépressifs, dans des addictions, dans des actes répétés de violence, souvent on se réunit autour du cas de l'enfant qui ne va pas bien et on met en place tout un tas d'hypothèses de ce qu'il aurait pu vivre, et on se rend compte que l'hypothèse de la potentielle violence sexuelle subie n'est pas là ou intervient en dernier lieu. Et pourtant, quand on regarde les statistiques, l'une d'elles dont on a parlé précédemment, je crois qu'il est grand temps de remettre sur le devant de la scène et en priorité cette hypothèse de la potentielle violence sexuelle subie.
Nous en sommes tous protecteurs de l'enfance à travers nos métiers, à travers le voisinage, à travers les gens qu'on côtoie. C'est aussi nous mettre cette entre guillemets possibilité, ou en tout cas cette veille aussi à tous dans notre cerveau.
Ouais, complètement. On parle souvent de responsabilité collective, mais c'est quoi la responsabilité collective? C'est bien la responsabilité individuelle de chacun par rapport à ça, et c'est ce qu'on met en œuvre au quotidien lorsque j'anime des temps de sensibilisation, des conférences sur le sujet. Je suis parfois face à des professionnels qui évoluent dans leur milieu sportif, médical ou scolaire, mais je m'adresse toujours à eux en tant que citoyen finalement. Et l'objectif premier de ces temps-là, c'est, comme tu le soulignes, les amener à être juste un tout petit peu plus en veille, un tout petit peu plus vigilant par rapport aux enfants dont ils ont la charge dans leur milieu, mais plus largement, voilà, à titre perso, on en côtoie tous des enfants hein, dans nos propres familles aussi, donc c'est être voilà, un tout petit peu plus attentionné et vigilant par rapport à cette thématique-ci aussi.
On avait eu l'occasion d'aborder la thématique des droits de l'enfant plus largement, la protection de l'enfance plus largement, avec notamment l'association La Cause des Enfants sur un sujet plus global, en fait, des droits de l'enfant. Hein. Je me souviens, à l'époque, Nathalie Le Thor, que nous recevions, qui aujourd'hui poursuit toujours dans cette voie hein, de protection de l'enfance. la question, c'était toujours comment on est attentif à travers des questions simples, en fait. Finalement, on pourrait se dire que c'est très compliqué d'écouter l'enfant, que on sait pas trop comment s'y prendre. Comment finalement on est réceptif à cette parole de l'enfant, Benjamin?
Oui, il y a plusieurs choses. On disait être plus vigilant, c'est davantage observer. On disait, on côtoie tous des enfants, on a l'habitude de voir le comportement de l'enfant, et je crois que dès lors qu'on observe un changement de comportement soudain chez l'enfant que l'on connaît, ça doit nous alerter. Alors ce changement de comportement soudain, il peut se poser sur pas mal d'aspects, mais voilà, faire attention à cela. Et puis des enfants qui régressent, tu sais, qui par exemple auraient acquis un champ lexical, tout un vocabulaire sur quelque chose, et puis d'un coup d'un seul, il y a cette régression, ils ont perdu ce vocabulaire-là. Tiens, ça mérite d'être attentionné, et puis d'observer ça, et peut-être de partager ça avec son collègue le plus proche, voir si lui aussi il a repéré quelque chose de cet ordre-là, ou quelque chose qui vient compléter ce que soit on a observé.
Quand tu dis parole, du coup, c'est aussi quand on est en alerte, ne pas garder cette alerte pour soi, c'est-à-dire la partager. Enfin, quand on parle de parole, c'est pas que la parole de la victime, c'est la parole de l'adulte qui observe également.
Ouais, je crois qu'il y a bien un réflexe, c'est venir partager ça à la personne en qui on a confiance dans son environnement. D'une part, ça permet d'extérioriser les choses, de lever la peur qu'on peut en avoir. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? De voir si cette personne-là n'a pas observé quelque chose, et c'est ensemble de décider d'une stratégie, d'en faire quelque chose. Et souvent, la stratégie que l'on retient, c'est effectivement de se rapprocher de l'enfant et de voir si, il n'a pas potentiellement subi quelque chose. Alors ça nécessite d'être formé à la thématique, de le faire de manière appropriée pour accueillir la parole de l'enfant potentiellement victime de violences sexuelles de la manière la plus adaptée possible, et que ça soit, que ça constitue un moment le plus réparateur possible pour lui aussi.
Parfois, bien réagir, c'est savoir passer la balle à un professionnel. Quoi.
Exactement.
La balle, pas forcément la balle, mais en tout cas, le sujet, c'est-à-dire que parfois, c'est passer le relais. Voilà, c'est ça que je cherchais mot. Oui. C'est parfois bien réagir, c'est juste être en capacité d'avoir trouvé le bon relais professionnel, ou qu'aura la distance, ou qui aura les éléments plus techniques, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Chaque situation est différente. Elle mérite d'être pensée, d'être réfléchie à plusieurs pour justement définir la stratégie qui sera la plus adaptée, quoi, par rapport à l'observation.
Et puis, je me permets aussi vis-à-vis de l'adulte de se dire, pas porter non plus seule la responsabilité de l'action face à un doute, face à un questionnement, parce que ça commence toujours par un questionnement, un doute. Ça commence rarement par une certitude.
Oui, une suspicion, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais, tout à fait. Maintenant, à un moment donné, ça nécessite d'aller vérifier si la suspicion s'avère réelle.
Et ça, effectivement, quand on n'est pas seul, on peut partager cette responsabilité,
ce qui
allège aussi le fardeau de la personne, de l'adulte qui intervient. Enfin, parce que mine de rien, ça fait partie des sujets tabous, quoi. J'imagine que l'adulte lambda qui a des suspicions ou autres doit être bien emmerdé quand même.
Eh oui.
Parce que c'est pas anodin.
C'est ça. Mais il faut en faire quelque chose. Maintenant, il faut aussi y apposer une limite et chacun son boulot.
Voilà, j'en fais quelque chose. Mais ce serait bien que je sois pas tout seul en faire quelque chose.
Ouais,
ça me permettrait de porter moi-même tout seul le fardeau. C'est important comme notion quand même de se dire qu'il faut partager, faire circuler la parole tout simplement.
Bien
plus
sûr.
On en parle, mieux c'est. On y reviendra bien entendu sur cette émission autour de cette question de l'agression sexuelle auprès des enfants, comment réagir. On aura peut-être des petites astuces et des éléments à aborder. Benjamin, il voulait pas dévoiler tout parce qu'il a dit, ouais, il y a des formations quand même au bout d'un moment. Mais il n'est pas avare d'astuces.
Bien sûr.
Et il les partagera avec nous, bien entendu. Juste avant de retrouver nos chroniques, bien entendu, je vous propose un morceau de Fatoumata Diawara. Il est tout frais, tout neuf. Il a quelques jours à peine. Né Tara.
Netara, netara, netara. Until it blows.
Mata Diawara avec le titre Netara. Moi, je la suis en particulier, Fatoumata Diawara. Chaque titre est une bouffée d'air. Elle aussi raconte plein de choses à travers ses titres. Je vous invite, si vous les regardez sur un site de streaming type YouTube, par exemple, de mettre la traduction en français. Ce sont des manifestes à chaque titre.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et nous retrouvons l'ami Pauline qui a été explorer les méandres des programmations du coin. Elle a été se renseigner, elle a été née au vent, récupérer des informations sur du festival. Bonjour Pauline.
Bonjour à tous, vous allez tous bien?
Bah, très bien, merci.
Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un festival. Donc on est beaucoup aimé le monde culturel, notamment le théâtre. Il existe pour cela de nombreux événements pour satisfaire votre soif culturelle. Mais savez-vous qu'en Seine-Maritime, près de Rouen, au Grand Quevilly, la ville connue notamment pour le Zénith, il existe un festival où petits et grands seront comblés pendant 3 jours pour un festival de théâtre amateur.
Ben, j'imagine que tu vas nous en dire un petit peu plus, et notamment les origines de ce festival.
Oui, bien sûr. Cela a commencé il y a maintenant 8 ans, 2 troupes se sont unies pour créer un festival de théâtre. Les troupes qui ont été acceptées au festival ont toutes été validées par un casting. Les troupes ont été sélectionnées dans le but de régaler tous les spectateurs. Il y en aura pour tous les goûts, de la comédie, du théâtre de boulevard, du théâtre un peu plus angoissant et même de murder party.
Et donc, j'imagine que tu as regardé un petit peu la programmation de plus près. Qu'as-tu repéré lors de cet événement?
Eh bien oui, pour y avoir été à plusieurs reprises, je peux vous garantir un moment plein d'émotions. Je souhaite vous partager une pièce que j'ai vue l'année dernière, qui est une très belle adaptation du célèbre film Mary Poppins. Mais cette année, je vais vous présenter des spectacles à ne pas manquer. Tout d'abord, n'a-t-on jamais entendu parler des personnes souffrant de solitude qui étaient prêtes à faire tout et n'importe quoi? C'est le cas avec cette pièce rocambolesque, jouée à 14h par le Théâtre d'en haut. Pendant 1 heure, retrouvez un couple qui ont tout pour réussir, mais pris par un élan de solitude, viennent à louer des amis. C'est dingue comme histoire quand même. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour combler tous leurs désirs? Maintenant, je dois vous confier que j'ai failli faire partie de la troupe qui organise la murder party, Still Kidding. Mais j'ai préféré sans hésiter être en votre présence en cette belle journée. Si vous aimez bien résoudre une enquête du style Cluedo et être acteur, cette énigme de qui a tué la mariée vous passionnera et vous serez très surpris de la vérité, à retrouver à 16h le samedi 15 février. Pour la soirée, retrouvons une compagnie que je connais très bien car j'ai fait partie il y a quelques années, il y a maintenant presque 6 ans avant que je sois enceinte. Les K, donc la lettre K, est plus loin barrée, du coup. D'habitude, ils abordent un style plus comique, mais là, cette année, venez assister à un tout nouveau genre de production, une ambiance plus angoissante où le personnage principal se demande s'il est entouré de morts ou de vivants. S'il est dans un monde réel ou imaginaire, n'hésitez pas à vous y rendre car c'est uniquement lors du spectacle que vous obtiendrez ces réponses. Une dernière pièce à vous présenter, retrouvez de nouveau le théâtre d'en haut avec des 5 sabans. D'une durée de 50 minutes, une femme nous confie sans pudeur et en délaissant sa vie religieuse pour enfin oser s'affirmer et reprendre sa vie en main. Je trouve ça tellement courageux d'oser montrer qui on est avec nos souhaits et valeurs. Surtout lorsqu'on voit dans quelles conditions ces femmes ont été élevées. Très contemporain, elle pourrait être à l'initiative de la révolte des conditions féminines. Je ne peux que soutenir un tel spectacle en espérant que ces femmes arrivent enfin à s'émanciper.
Alors maintenant qu'on a toutes les informations sur la programmation, est-ce que toi tu as repéré, est-ce qu'il y a des infos utiles à savoir pour pouvoir accéder à ces spectacles?
Oui, il est possible d'acheter les billets aussi bien en ligne sur le site de l'ALBCS ou encore sur place. Pour venir sur place, l'adresse est la Grange du Grand Aulnay au Grand Quevilly. Possibilité d'acheter à boire et à manger sur place. Le prix par spectacle va de 5 à 7 euros. Gratuit pour les enfants. Il est possible aussi d'acheter un pass pour voir plusieurs spectacles. Et donc, chers auditeurs et auditrices, on vous attend nombreux pour cet événement.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris à Grand Quevilly pour ce week-end.
Du 14 au 16 février.
Ce week-end, du 14 au 16... Ouais, je vais trop vite dans le temps, moi, je suis déjà le week-end d'après, quoi, c'est... En tout cas, c'est à Grand Quevilly, et ça, je me suis pas trompé, j'ai pas été trop loin non plus.
À la Grange, je suis Grand Aulnay.
Eh ben voilà. Nous sommes toujours avec Benjamin Perrault de l'association Silence à l'écoute, association qui accompagne et libère la parole, alors qui accompagne les personnes et qui libère la parole des personnes victimes de violences sexuelles. Infantile, on en parle depuis tout à l'heure. Et puis en dehors de micro, t'avais carrément checké Benjamin, tu discutais avec et oui. Vous abordiez des thèmes ultra intéressants. J'aimerais bien du coup qu'on les remette à l'antenne, ce serait plutôt pas mal.
Ah oui. Eh ben oui, avec Benjamin, c'est vrai que je posais la question de savoir comment ça se passait quand on pouvait repérer des choses chez un enfant, mais dans le cadre de la famille, où cette notion de tabou qu'on abordait tout à l'heure autour de cette problématique de société est encore plus importante. Quelle est la stratégie, du coup, comme on disait, qu'on peut adopter pour y aller pas à pas et puis ne pas ajouter de difficultés à l'enfant ou à la famille, parce que du coup c'est famille qui est en difficulté forcément.
Oui, question forte, pertinente, cher So. D'autant plus que les violences sexuelles subies dans l'enfance, dans 80% des cas, elles sont dites intrafamiliales. Donc, on voit à quel point cette question-là nous concerne tous, hein, puisque elle est là. Quasiment dans chaque famille, si c'est pas la génération d'aujourd'hui, c'est la génération précédente qui a été touchée par ça, ou ça sera la génération d'après. Alors, je dirais qu'il y a une nécessité d'adaptation, comme on le disait tout à l'heure, de partir de l'observation de l'enfant qui a changé de comportement, qui dysfonctionne, et s'il y a bien une stratégie, c'est de en faire part au sein de la famille à la personne en qui on a le plus confiance, ou en faire part à une association dont l'objet est celui-ci et est spécialisé là-dessus, type Silence à l'écoute sur Évreux ou dans le département, et ensemble de livrer cette observation là et ensemble de définir ce qui mérite d'être fait. Mais dans bien des cas, ça nécessite à un moment donné de pouvoir s'entretenir avec l'enfant et en adoptant un questionnement approprié, de faire en sorte que l'enfant possiblement se libère de ça. Maintenant, soyons clairs, il y a quand même peu de chances que l'enfant s'en libère immédiatement. On parlait de cette moyenne de 20 ans, mais ça peut être un moment où l'enfant se rend compte que tu es là vraiment pour prendre soin de lui, et même s'il libère pas sa parole dans ce moment-là, bah quelque part il y a une petite graine qui vient germer dans ce moment-là, qui vient grandir et ça favorisera certainement sa libération de parole dans les mois, dans les années qui viennent, quoi.
Oui, parce que les enfants victimes de violences sexuelles, on met le mot survivant derrière. Est-ce que ça vient renforcer le fait que pour survivre justement, il faut avoir un petit peu des petites lumières au bout du tunnel qu'on aperçoive. Est-ce que c'est important que l'ensemble des adultes qui soient autour soient dans une bienveillance sur ces sujets-là? Parce qu'on sait jamais, en fait, quel enfant devant nous peut être concerné. Est-ce que donc, du coup, c'est important de lui amener un peu ces, voilà, cette bienveillance, de jalonner un peu son parcours de bienveillance en tant qu'adulte accompagnateur, soit dans la famille, soit autour?
Ouais, complètement. De lui offrir cet espace-là, cet espace bienveillant, de lui démontrer qu'on est là pour le protéger, pour prendre soin de lui au quotidien. On n'a pas parlé de cette stat-là, mais, 160 000 enfants sont victimes par an en France de violences sexuelles, ce qui fait à peu près d'ailleurs un enfant toutes les 3 minutes. Et quand on voit cette statistique-là, bah, je crois qu'il est vraiment grand temps d'en faire quelque chose, qu'on soit tous concernés par la thématique et de faire en sorte de laisser cet espace-là d'expression et d'en faire un vrai sujet, quoi.
Le fait aussi de réagir en tant qu'adulte, c'est poser officiellement ce qui s'est passé n'est pas normal. Enfin, moi j'y vois cette importance-là. La réaction amène à dire non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas, peu importe ce qui t'a été dit d'ailleurs, hein, parce qu'en fonction des âges, il peut y avoir le discours de c'est comme ça que ça se passe et tout est normal. C'est poser le regard officiel de l'adulte qui dit non. Ça ne se fait pas.
Complètement, ouais. D'une part, c'est rendre explicite le sujet, comme on dit, et lorsque l'enfant est en capacité de livrer ça dans ce moment-là, c'est insister sur « je te crois, je t'entends, je suis là pour toi », et comme tu le dis, JC, c'est venir nommer ça, c'est une violence que tu as subie, ce n'est pas normal, c'est interdit par la loi, ça je crois que quel que soit l'âge de l'enfant, même à 3 ans ou 4 ans, le ce n'est pas normal, c'est interdit, c'est compréhensible, et faire en sorte dès ce moment-là que l'enfant comprenne que ouais, c'est ça, c'est pas normal, et ça n'est pas lui la victime, c'est lui la victime, ça n'est pas lui le coupable, et de commencer à inverser la culpabilité dès ce moment-là.
Tu évoquais des chiffres tout à l'heure, 160 000 enfants chaque année victimes d'agressions sexuelles. Il y a un autre chiffre sur lequel je voulais venir et toute l'importance de libérer la parole est dedans. C'est une victime sur deux arrivée à l'âge adulte, si la parole n'a pas été libérée, et potentiellement reproduit potentiellement ce schéma. Quand la parole a été libérée, ça devient quasiment nul, la reproduction.
Et oui, c'est aussi tout l'intérêt de contribuer à libérer la parole des victimes, parce que ces mêmes victimes peuvent malheureusement devenir elles-mêmes auteurs à leur tour, et dans un cas sur deux, comme tu le soulignes.
C'est énorme. On peut comprendre les mécanismes qui amènent à ça, mais finalement, c'est casser le cercle aussi de venir poser la parole. C'est au bout d'un moment, ouais.
Ouais, briser la chaîne.
Ouais, briser la chaîne, exactement. Et ça, c'est essentiel. Enfin, c'est peut-être un argument supplémentaire même à libérer la parole. Oui, pour que la victime aille bien, mais peut-être aussi pour protéger de futures victimes.
Oui, complètement. Ça me fait penser lorsqu'on mène ces derniers temps, on mène quelques temps de prévention auprès d'enfants ou d'adolescents, et effectivement, dans ces moments-là, alors de manière détournée, sans attaquer le sujet de front et en le faisant de manière adaptée, mais l'idée qu'on a derrière, c'est de faire en sorte que ces enfants libèrent leur propre vécu traumatique, s'ils l'ont vécu, mais c'est aussi faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas eux-mêmes auteurs un jour de ces mêmes violences sexuelles.
Et ça, c'est important à aborder ces questions-là. Est-ce que finalement, on l'évoquait, tu organises des temps de sensibilisation, des temps de formation pour les professionnels, est-ce que tu as la sensation que il y avait un manque criant sur lequel personne n'était vraiment au point, juste le bon sens œuvrait sur le terrain, ou c'est on va de plus en plus loin, enfin comment, alors les deux sont possibles en même temps, hein, mais voilà, où en était un petit peu le manque, ou en tout cas la réalité jusqu'à maintenant, et comment on avance?
Ben, comme tu l'as amené tout à l'heure, tu parlais de la cause des enfants. Il y a d'autres associations hein, sur le secteur qui ont pu voilà s'emparer du sujet des violences faites aux enfants, mais des violences faites au sens large. Et je suis intimement persuadé que cette violence-ci spécifique-là, des violences sexuelles faites aux enfants, nécessite d'être traitée et d'être accompagné de manière spécifique, alors à la fois sur le plan du soin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi sur le plan de la formation, lorsque je suis amené à former les professionnels de l'enfance sur cette thématique-ci, on se rend bien compte que ça nécessite une observation spécifique, ce sont des signaux spécifiques que l'on repère, et puis on parlait de comment accueillir, voire même recueillir la parole de l'enfant. Il y a bien une posture verbale, non-verbal, un questionnement spécifique qui mérite d'être adopté parce que cette violence est spécifique.
T'es en train de me faire le sommaire de la dernière partie d'émission que nous retrouverons juste après la pause musicale. Effectivement, nous allons aborder tout ça.
Super.
Merci Benjamin. On voit que t'étais au point. Hein. Tu savais, de toute façon, tu savais pourquoi tu venais. Hein. Tu savais de quoi tu voulais parler. Et ben, tu nous as fait le sommaire. C'est parfait. Tom Waits, Yesterday is Here. Avec Yesterday is Here.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HBR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Et nous sommes toujours avec Benjamin Perrault de l'association Silence à l'écoute. Et puis pendant la pause musicale, en fait, c'est une habitude de saut, en fait. Elle refait une émission parallèle avec l'invité. C'est vrai ou pas?
Un peu, ouais.
Ouais, un petit peu. Alors moi, en fait, tu profites qu'on ait coupé les micros et que je fasse autre chose. Et à ce moment-là, vous échangez. Vous parliez de quoi?
On parlait de quoi, Benjamin?
Non, on parlait de Bah, à nouveau, de la délicatesse, de la dureté de cette thématique, de la peur qu'elle peut générer en chacun de nous. Et lorsqu'on débute un échange, oui, on peut avoir tendance à se refermer autour de ce sujet-là, à considérer cette gravité, à ne
crispé,
pas vouloir en faire vraiment grand-chose, à s'y opposer, rester dans le déni, comme on disait. Et puis, finalement... Une fois qu'on commence à amorcer la discussion, qu'on commence à en comprendre un peu les mécanismes et surtout en prendre conscience de l'importance qu'il y a d'en parler, d'en faire quelque chose, bah, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça fait du bien à chacun et il en ressort des temps riches, quoi, à la fois en matière, en fond et aussi en émotion, quoi. Ça fait du bien.
Oui, parce que je présume que dans le programme de l'association, le fait de former des professionnels, ça permet de les outiller, puis outiller, ça va déjà mieux, quoi, outiller face à une question aussi grave, aussi profonde.
Ouais, complètement. C'est vraiment l'optique au sein des formations qu'on est amené à déployer là ces derniers mois. Tu utilises le verbe outiller, c'est exactement ça. C'est faire en sorte qu'ils soient à même de mieux repérer les signaux faibles, mais il existe aussi des signaux forts hein, en lien avec ces violences sexuelles. Donc les connaître pour mieux les observer. Et ensuite, faire en sorte d'être vraiment capable d'accueillir lorsqu'un enfant est prêt à livrer spontanément ce vécu-là, bon, entre nous ce qui arrive rarement, ou plutôt d'être à même, je dirais, de recueillir et de commencer un questionnement qui soit adapté, qui soit bien sûr non suggestif, mais qui soit adapté pour faire en sorte que l'enfant se libère de ça, quoi.
Justement, quels sont les signes? Comment est-ce qu'on peut suspecter? Comment est-ce qu'on peut soi-même, tous, autant qu'on est, dans notre vie au quotidien, sans être un professionnel de l'éducation, un professionnel de l'enfance, comment on peut, est-ce qu'il y a des astuces, des façons de faire, des techniques, des signaux à pas louper? Comment ça marche, Benjamin?
Alors déjà, ça suppose, ça nécessite hein, d'être vigilant, d'être en précaution, en attention par rapport aux enfants qui sont en contact avec nous, d'avoir cette observation et une observation plus fine. Je parlais de signaux faibles et signaux forts. Alors signaux faibles, il y en a tout un tas et qui peuvent être d'ailleurs des signaux liés à d'autres types de violences. Tout à l'heure, j'ai évoqué le changement de comportement soudain et puis les régressions chez les enfants. Ça, ce sont deux grands chapeaux, je dirais, qui peuvent se poser sur tout un tas de comportements qui vont du trouble anxio-dépressif à de l'addiction. Mais il y en a aussi des spécifiques et si on regarde d'un peu plus près les signaux forts, alors chez les enfants les plus jeunes, ça peut être les dessins évocateurs, mais ça peut être aussi les masturbations compulsives. Un enfant qui, à un moment donné, se masturbe de manière régulière et compulsive et incontrôlable, bon, bah ça constitue un signal fort de violence sexuelle subie. Alors quand je dis signal fort, ça veut pas dire que il y a 100% de chances qu'il ait vécu ça, enfin en tout cas de risque qu'il ait vécu
c'est
ça.
C'est un signal.
Mais c'est signal. Un signal. Et lorsqu'on vient de l'additionner à d'autres signaux faibles, bah quand tout ça s'additionne, on tend vers une grande potentialité de la violence sexuelle subie. Tout comme je pense aux ados et certaines adolescentes que j'ai pu accompagner et qui s'étaient scarifiées à un endroit précis, et notamment à l'intérieur des cuisses, lorsque la scarification allait à cet endroit-là, c'est un signal fort de violence sexuelle subie dans l'enfance.
Ça fait partie de toutes ces petites alertes, mais une fois que ces alertes ont été données, la parole n'est pas forcément libérée, c'est quoi? C'est se tourner vers les professionnels, c'est passer le relais, parce qu'au bout d'un moment, on est bloqué, j'imagine, dans le...
Oui, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait, tout simplement, quoi? On a repéré ces signaux, faibles, forts, on n'a pas de certitude, mais on se dit, ça mériterait de creuser. Bah comment on déclenche d'aller creuser?
Ouais, c'est ça. Je pense, comme on disait tout à l'heure, première étape, first step, c'est en parler à la personne de confiance qu'on a autour de soi et qui connaît potentiellement l'enfant, parce que d'une part, ça permet d'extérioriser les choses, d'évacuer la peur qu'il y a à l'intérieur de nous, puis ça permet de voir si cette même personne n'a pas repéré des éléments concernant ce même enfant. Et puis ensuite, c'est rapidement se rapprocher d'une association comme la nôtre pour définir une stratégie qui soit la plus adaptée, la plus pertinente possible pour en faire quelque chose. Parce que lorsqu'on a observé ça, on ne peut pas garder ça pour soi et il faut en faire quelque chose. Maintenant, il y a différentes orientations possibles, mais ça nécessite d'en faire quelque chose. D'ailleurs, on est tous soumis à cette obligation dès lors qu'on a connaissance hein, de maltraitance, et notamment sexuelle, auprès d'un enfant. C'est d'en avertir aussi les autorités judiciaires. Alors ça se fait d'une certaine manière en fonction du degré de gravité et puis d'urgence liée à la situation, quoi. Mais on est tous soumis à ça.
Tu l'évoquais sur Évreux et ses alentours larges, il y a silence à l'écoute. Pour les auditeurs de Rouen, il y a aussi, j'imagine, des structures rouennaises qui œuvrent dans le même secteur.
Ouais, il y a une autre asso avec laquelle j'ai eu l'occasion de collaborer il y a quelques temps, qui est dirigée par Emilienne Conchou et qui s'appelle No Inceste. Donc cette association est basée à Rouen et tout comme nous, ils mettent en place hein, des espaces d'accompagnement et d'accompagnement notamment des victimes.
Et je crois que tu as aussi en parlé qu'un groupe de parole aussi, situé à Saint-Sever, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, j'en ai entendu parler.
Mmh. Et là, c'est plutôt pour des adultes qui peuvent venir témoigner, on va dire.
Mmh. Mais voilà, c'est quand on libère la parole, notamment longtemps après, parce que le chemin est à faire. Sur ces structures, il suffit de pousser la porte. On est, j'imagine, accueilli avant tout comme on est. Hein, oui. Mais c'est important de le rappeler tout de même. Hein,
oui.
Si on n'est pas obligé d'avoir fait des parcours d'adhésion ou de je ne sais quoi en amont, on rencontre en fait les membres de l'association. Et puis, j'imagine que l'échange se met en place à partir de là.
Oui, c'est ça. Nous, on a souhaité la plus grande souplesse et liberté possible hein, par rapport à ça. D'une part, comme on le signe, c'est pas évident d'en parler. Donc, en tout cas, je vais parler en ce qui concerne silence à l'écoute. Il y a un dispositif qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années, un groupe de parole qui se tient mensuellement. Donc, à destination d'adultes, qu'on subit ça dans l'enfance. Ces groupes de parole se tiennent à la baraque, à l'espace de vie sociale au 1 rue Saint-Thomas à Évreux, là, un mercredi soir par mois. Et les personnes sont vraiment libres d'y venir sans même avoir passé un coup de fil ou avoir envoyé un mail au préalable. Je co-anime cet espace-là avec une collègue psychologue. C'est vraiment un espace de soins. Et l'idée, c'est de venir livrer son vécu, de le partager avec d'autres personnes qui ont vécu sensiblement la même chose et qu'on en fait quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose de très réparateur là-dedans.
Ce groupe de parole, comme tu l'évoquais, c'est, tu disais, pour une victime d'agression sexuelle infantile. Mais si, je sais pas, mon enfant, j'ai eu ces signaux, justement, mon enfant, mon neveu, ma cousine, enfin, peu importe qui, hein, j'ai eu ces signaux, comme on l'évoquait, fort faibles. Est-ce que je peux aussi venir à la rencontre de l'association
Bien
pour
sûr.
Partager ça? Parce
ouais,
que sans problème. Tu évoquais qu'il fallait se rapprocher d'une personne de confiance, mais tout le monde n'a pas forcément suffisamment ou peut-être n'en est pas là pour échanger avec la personne de confiance.
Oui.
Est-ce qu'on peut pousser aussi la porte pour venir avec un peu son paquet dans les bras et dire voilà, j'ai des signaux, j'ai des trucs, je sais pas quoi en faire.
Ouais, complètement, c'est toute l'utilité hein, de l'association, c'est dans bon nombre de cas, alors ça pousse pas la porte directement, mais en tout cas ça passe un coup de fil et c'est moi qui suis derrière le numéro de téléphone que je vais laisser tout à l'heure pour bien sûr entendre la situation, observer, vécu et puis définir d'en faire quelque chose ensemble, hein, tout simplement. Hein. Donc, offrir un appui quoi, par rapport à ça. Une écoute et un appui.
Tu évoquais tout à l'heure la notion de soin. Quand on s'égratigne le genou, je vois bien quels soins on peut apporter. Mmh. Quand on vit ce type de traumatisme, quels soins sont nécessaires?
Ben, en priorité, un soin psychologique. Hein. Je considère vraiment que ça nécessite une élaboration sur le plan verbal. Il y a une vraie différence entre être en capacité de dire j'ai été victime de et être en capacité à un moment donné de venir précisément verbaliser autour du traumatisme vécu, en élaborant autour de la scène qui a généré le traumatisme, des scènes qui ont généré le traumatisme, et de venir élaborer sur tous les impacts que ça a pu avoir au cours de notre vie, de notre vie d'enfant, de notre vie d'adulte. C'est quelque part avoir la possibilité d'en comprendre quoi qui on est devenu par rapport à ça. Et il y a je considère une vraie nécessité d'en faire quelque chose sur le plan psychologique. Maintenant, on peut venir y additionner d'autres méthodes thérapeutiques, hein, mais le volet soins et le volet soins psy individuels, collectif comme on le fait au sein des groupes de parole, c'est indispensable à mon sens.
J'imagine que toute sa vie, on porte, même si on participe aux soins, même si on a libéré la parole, même si on est sur... Est-ce qu'on peut parler de guérison de son traumatisme quand même? Je sais pas si on peut appeler ça vraiment une guérison de traumatisme, mais j'imagine que ça fait partie ensuite de ce qu'on est.
Oui, ça reste, hein. Les images restent, hein, bien sûr. J'appose pas ce mot-là, guérison, parce que justement les images restent.
J'étais très prudent.
Oui, j'entends. Je préfère parler de réparation, en tout cas de parcours de réparation qu'on peut entamer pour soi et on peut comme ça petit à petit, à force de considérer ce traumatisme-là et de prendre soin de soi, de petit à petit à aller mieux par rapport à ça, de se réparer par rapport à ça.
On va arriver quasiment au terme de cette émission, il nous reste 5 minutes. Je t'ai emmené sur les thématiques que moi je trouvais intéressantes. On a parlé grand public, on a parlé professionnel, on a parlé de la vie de l'association qui va fêter ses 3 ans dans pas longtemps, hein. Je crois que l'Assemblée Générale c'est au mois de février, c'est ça?
Ouais, c'est ça, les 3 ans d'existence, c'est ça, sont passés là depuis octobre et l'Assemblée Générale se tiendra le 24 février. Ouais. Brasserie Sport, Gravini. Parce que amis proches, amis d'enfance, voilà, les personnes qui ont créé la Brasserie Sport sont des personnes qui sont vraiment sensibles aussi à la thématique, des personnes que j'aime particulièrement. On a eu l'occasion d'ailleurs de mener plusieurs temps là-bas sur la thématique des violences sexuelles faites aux enfants, et c'est tout naturellement qu'on tient notre assemblée générale chaque année là-bas. Donc elle se tiendra le 24 février à partir de 18h15. Bon, il y aura un temps de restitution, hein, classique de nos actions, du rapport financier, mais on veut ce temps-là le plus court possible pour aussi en faire un moment convivial, de partage, et puis partager.
Puis d'échange, en fait.
Sympa, c'est ça. C'est
quand
ça.
On est silence à l'écoute, on partage en fait en permanence.
Carrément.
En fait, on partage sur la thématique du traumatisme et de l'agression sexuelle infantile, mais pas seulement. En fait, on partage. C'est une posture en fait d'être à l'écoute.
Ouais, c'est ça, complètement. C'est l'idée, c'est d'en faire un faire-valoir au quotidien. Mais ouais, on la veut la plus ouverte possible aussi, cet AG-là, parce que, bien sûr, on y a convié nos adhérents, nos partenaires, mais si vous êtes intéressé par la thématique, intéressé pour nous rencontrer, intéressé pour tout simplement en parler et puis en savoir un petit peu plus sur ce sujet-ci, n'hésitez pas à vous rendre à la brasserie ce jour-ci.
Voilà. Cette brasserie qui est quand même, tu l'évoquais, des amis d'enfance, des amis d'enfance à toi, et puis ce lien avec la brasserie, elle est quand même hyper sociale quand même. La semaine dernière, c'était le Secours Pop qui faisait une soirée de soutien là-bas. Il y a toujours des événements à caractère social tout de même.
Ouais, j'y étais d'ailleurs.
Qui se déroule.
Ouais, c'est top. C'était une très belle soirée. Vincent Connétable, qui fait partie du gang of Venus, qui jouait avec sa gratte et qui portait fièrement le t-shirt Silence à l'écoute d'ailleurs ce soir-là, puisque c'est un adhérent de la première heure, et j'en profite, tu vois, pour le remercier. C'est une personne que j'aime beaucoup.
Voilà, c'est l'occasion de rentrer en contact effectivement avec l'association sur un moment plus festif que des temps d'écoute. Les temps d'écoute, c'est 1 rue Saint-Thomas, ouais, à Évreux, les mercredis à 18h, c'est ça?
Alors, c'est un mercredi soir par mois à 18h30, pour être précis. Le prochain groupe de parole se tiendra le mercredi 19 février à 18h30.
On retrouve les infos sur les réseaux sociaux, Silence, ouais, à l'écoute. On retrouve ça sur le site internet aussi. Silence à l'écoute, que j'invite à aller consulter, parce qu'il y a des petites infos autour des formations, autour des lieux d'écoute. Ce sont aussi les valeurs de l'association qui sont clairement posées aussi sur ce site. Et voilà, ça permet de libérer cette parole, justement, qu'on dit depuis le début de cette émission, qu'il faut absolument libérer cette parole. Bon, le but du jeu, c'est qu'on éradique aussi toutes ces agressions. Peut-être dans un monde où on sera plus à l'écoute de l'autre, où on sera plus respectueux des uns et des autres. Et ça, c'est tout ce qu'on espère. Je vais te laisser le mot de la fin, Benjamin. On a, comme je disais, j'ai emmené où je voulais. Peut-être qu'il y a des endroits où je n'ai pas été. On a 2 minutes devant nous pour conclure et j'ai envie de te laisser toi la thématique de ces conclusions.
Okay. Eh bien, écoute, l'idée me vient comme ça parce qu'on parlait Assemblée Générale qui se tient prochainement. Lors de cette Assemblée Générale, je vais être aussi amené à exposer ce sur quoi on travaille en ce moment au sein de Silence à l'écoute et ce qui va m'animer prochainement avec ma collègue psychologue Sarah De Koun, ce qu'on est en train d'ailleurs de co-construire avec une autre structure qui s'appelle PSL 27, qui est basée sur Évreux. C'est un parcours de réparation par le sport et plus particulièrement par les bienfaits de l'eau. Donc, pour être très concret là-dessus, nous sommes en train de construire ce parcours de réparation qui allierait bienfaits de l'eau, relaxation dans l'eau et de petits temps d'apnée aussi sous l'eau, parce que je suis intimement persuadé que le sport et l'eau et particulièrement l'apnée peut être un bon outil pour travailler sur ce traumatisme-là, spécifique-là. Parfois, on n'est pas ou plus en capacité d'élaborer verbalement autour de son traumatisme et le fait de être sous l'eau, dans ce monde du silence et en même temps où on écoute plein de choses, on peut
en passer par une...
Ouais, c'est ça.
On vient s'écouter soi, en fait, dans le silence.
Ça nous permet de capter ce qui se passe en soi, de l'écouter, de le saisir, de le comprendre et de petit à petit venir transformer son traumatisme et en faire quelque chose de très positif.
Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Perrault, de l'association Silence à l'écoute, d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir abordé ce sujet hyper important, en fait, libérer une fois de plus la parole et inviter tout le monde à en parler, à ce que soit plus un sujet tabou. Ça fera sûrement avancer les choses. On retrouve toutes les informations sur les réseaux sociaux Silence à l'écoute et puis on retrouve également sur le site internet de Silence à l'écoute.
Tout à fait.
Merci Benjamin.
Merci JC, merci Principe Actif.
On vous souhaite une bonne journée, restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.